Gloire à Dieu. On va ensemble ouvrir la Bible dans l'Évangile selon Marc au chapitre 10. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David !» « Aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelle-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni !» lui répondit l'aveugle « Que je recouvre la vue !» Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Il y a dans ce texte quelque chose d'intéressant entre le début, au verset 46, et la fin, au verset 53. Nous voyons au début un homme qu'on appelle Bartimée, qui est aveugle et qui, à cause de sa cécité, eh bien, est rendu à la mendicité. Il doit mendier son pain pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais cet homme, on voit qu'il est assis au bord du chemin. Et à la fin de cette histoire, lorsque cet homme va va être guéri de sa cécité, il nous est dit qu'il suit Jésus dans le chemin. Au départ, donc, on a un homme assis au bord du chemin, et à la fin, le même homme qui suit Jésus dans le chemin. Que s'est-il passé entre les deux? Nous allons le voir. Mais ce message va faire suite au message de dimanche dernier. Alors pour ceux qui n'étaient pas là et pour les autres, pour faire une petite piqûre de rappel, dimanche dernier, je parlais des coups d'arrêt dans notre marche, dans notre course chrétienne. Et nous avions vu ce que l'apôtre Paul dit aux Galates, « Vous couriez bien, qui vous a arrêté ?» Nous avons vu que parfois, il y a des faits, des événements ou des personnes, ou ça peut venir aussi de notre cœur, qui peuvent nous arrêter, nous donner un coup d'arrêt. Et du coup, nous sommes comme cet aveugle sur le bord du chemin. Voilà, le chemin est à notre proximité, nous sommes juste au bord du chemin, mais nous sommes arrêtés et nous sommes assis sans pouvoir bouger, ou en tout cas, si nous bougeons, c'est avec peine. Nous avions vu donc les différentes raisons pour lesquelles nous pouvions être arrêtés, les influences, les séductions. Nous avions parlé, bien sûr, que le péché peut nous bloquer, la fatigue et l'essoufflement, les oppositions. Nous avions vu tout cela dimanche dernier et je n'y reviendrai pas plus. Donc il y a des faits, des personnes ou de nous-mêmes aussi. Eh bien, nous pouvons nous arrêter sur le bord du chemin, ce chemin que le Seigneur a tracé pour nous, ce chemin, bien sûr, du salut, ce chemin étroit et que nous avons pris un jour, comme ces deux jeunes filles aussi ont commencé à prendre et que les uns et les autres nous avons aussi pris, entamé, et nous avons marché avec le Seigneur sur ce chemin étroit, et puis aussi non seulement le chemin du salut, mais le chemin aussi qui nous est propre, le chemin personnel de notre vie, ce que le Seigneur attend de nous, le sens qu'il a donné à notre vie, la direction que l'on veut que l'on prenne. Et nous avons commencé à marcher sur ce chemin-là et nous l'avons fait avec joie au départ, c'était même avec zèle. Nous l'avons fait avec entrain, avec enthousiasme parce que nous avions découvert le Sauveur de notre âme. Nous avions aussi découvert l'espérance qui s'attache à notre appel et nous sommes heureux de marcher avec le Seigneur. Et puis voilà, il s'est passé quelque chose dans notre vie. Il y a eu un événement, il y a eu de l'opposition, du découragement, de l'essoufflement. Et puis il s'est installé en nous ce désir de s'arrêter. Et là, on est assis, on reste à proximité, on est là au bord du chemin, mais néanmoins, on est assis. Alors, si ça s'arrêtait là, ça serait négatif. Mais ce qui est essentiel pour nous, c'est de pouvoir redémarrer. Et ça va être vraiment le sujet de ce matin, redémarrer. Redémarrer après ces coups d'arrêt. Redémarrer après nous être arrêtés, et là, juste au bord du chemin, comme cet homme. Redémarrer, et comme cet homme, avec une vue nouvelle, une vision nouvelle. Il va être guéri de sa cécité et cet homme va voir tout à nouveau. On ne sait pas depuis combien de temps il est aveugle. Peut-être est-il aveugle depuis son enfance, peut-être depuis quelques années. On ne sait pas exactement, on n'a pas plus d'indications que cela. Mais en fin de compte, cet homme va voir tout à nouveau. Et on peut s'imaginer la joie de cet homme qui va, à ce moment-là, voir tout à nouveau et pouvoir, sans difficulté, sans handicap, suivre Jésus sur le chemin. Cet homme est sur le chemin et Jésus arrive à Jéricho, il sort de la ville et il y a un chemin qui va de Jéricho à Jérusalem et de Jérusalem à Jéricho, on le sait, puisqu'il y a même une parabole, la parabole du bon samaritain, où un homme descendait, lui par contre, de Jérusalem à Jéricho, et en chemin, donc, il a été agressé, et on l'a dépouillé de tous ses biens. Donc il y a un chemin qui est là, qui va de Jéricho à Jérusalem. D'ailleurs, si on avait lu au chapitre 11 et verset 1er, on voit que Jésus montait à Jérusalem, il prenait ce chemin. Au chapitre 1er, nous est dit « lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem ». Donc, Jésus sort de Jéricho, il va à Jérusalem, et en sortant, il y a là cet homme. Il y a beaucoup de monde, il y a non seulement les disciples de Jésus, mais il nous est précisé qu'il y a une grande foule. Et une foule, ça fait du bruit. Une foule, ça fait du bruit lorsque ça marche. Une foule, ça fait du bruit parce qu'il y a les gens qui parlent. Donc, il y a du monde. Et cet homme, et on peut le comprendre, va crier. Il y a du monde, il y a du bruit, et il se met à crier pour être sûr qu'on l'entende, pour être sûr que Jésus l'appelle. Mais au-delà du fait qu'il y ait du monde, au-delà du fait qu'il y ait du bruit, je crois aussi pertinemment que c'est le cri qui vient du cœur de cet homme. Cet homme n'en peut plus d'être assis en train de mendier pour pouvoir manger. Cet homme en a assez d'être aveugle. Et il se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Je crois que la première étape, pour les uns, pour les autres, chacun d'entre nous, pour l'Église, c'est de crier à Jésus. Si nous voulons redémarrer, si nous voulons tout à nouveau repartir, alors que nous sommes là, comme coincés, bloqués, arrêtés sur le bord du chemin, voilà, il y a le chemin qui est là, on le sait où est le chemin, on est juste à côté du chemin, mais on ne peut pas y marcher. La première étape, c'est vraiment de crier à Jésus. Car nous savons que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses, que son nom soit glorifié. Mais ça ne se passe pas si facilement que cela. Parce que si nous lisons le texte, certains ont essayé de faire taire cet aveugle. Voilà un homme qui est en détresse. Voilà un homme qui crie après Jésus pour que Jésus ait pitié de lui. On pourrait s'attendre à ce que, eh bien, des gens de la foule, des disciples de Jésus, prennent cet homme et l'encouragent. Allez, on va t'amener auprès de Jésus. Mais non, c'est le contraire qui se passe. Alors que cet homme est en détresse et qu'il crie son désarroi, on essaye de le faire taire, de le reprendre. C'est toujours difficile. On exprime notre souffrance au Seigneur, on est là dans la prière. Et puis il y a des personnes qui peut-être n'essayent pas de nous faire taire, mais essayent de nous décourager. « Oh, mais de toute façon, ça ne changera rien à ta situation. Tu peux prier, tu peux même jeûner. » Certaines personnes savent vraiment nous encourager. Hein. Mais que fait cet homme ? Ne vous découragez pas, frères et sœurs. Si on essaye de vous faire taire, si on essaye de vous décourager, que vous en avez assez de cette situation de blocage, de ce coup d'arrêt dans votre vie, que eh bien, vous voulez redémarrer, criez encore plus fort. Alléluia, le Seigneur, de toute façon, lui, il n'est pas sourd. Hein. Le Seigneur, il nous connaît, le Seigneur, il sait entendre notre voix, mais on voit ici un homme eh bien, qui, loin de se décourager, loin d'arrêter de crier, même si on le reprend, même si on essaye de le faire taire, lui, il crie encore plus fort. Alléluia. Oh, que j'aime la détermination de cet homme. Et nous voulons vraiment ainsi exprimer tout notre désir. Il faut que nous puissions le vouloir. Il faut vraiment vouloir, eh bien, désirer fortement dans notre cœur, redémarrer après un coup d'arrêt. Nous pouvons le connaître personnellement et nous pouvons aussi le connaître collectivement. Il nous faut à ce moment-là et que l'Église puisse crier à Jésus, « Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous. » Cet homme crie après Jésus. Il crie encore plus fort. Il est même précisé, il criait beaucoup plus fort. Amen. Alors Jésus s'arrête. Là, c'est Jésus qui s'arrête. Et Jésus s'arrête toujours devant la misère. Jésus s'arrête toujours devant la détresse. Jésus s'arrête et va demander à ce qu'on l'appelle. Et là, peut-être les mêmes qui essayaient de faire taire cet homme vont dire, eh bien, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Merci Seigneur. Puissions-nous prendre courage, puissions-nous nous lever, parce que le Seigneur est celui qui nous appelle. Le même qui un jour nous a appelés à lui afin que nous lui donnions notre cœur et le même qui aujourd'hui nous appelle à redémarrer dans notre vie, à redémarrer dans notre course, à redémarrer dans notre service, à redémarrer dans tout ce que nous faisons pour lui, dans notre amour pour lui, dans notre zèle pour lui, il est celui qui encore aujourd'hui nous appelle. Lorsque le prophète Ésaïe a commencé son ministère prophétique, il l'a commencé, mais à un moment donné, il entend cette voix du Seigneur. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Ésaïe a déjà commencé son ministère prophétique. Et là, dans Ésaïe 6, il voit la gloire du Seigneur. Saint, saint, saint est le Seigneur. Vous connaissez cette vision qu'a eue Ésaïe. Et à ce moment-là, Ésaïe est touché dans son cœur. Il a déjà commencé à servir le Seigneur. Mais tout à nouveau, il dit, « Me voici, Seigneur !» Envoie-moi. Cela ne concerne pas, ce que je veux dire par là, cela ne concerne pas uniquement ceux qui désirent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ pour la première fois. Cela nous concerne à nous tous qui avons commencé eh bien, notre marche chrétienne, qui avons commencé à servir le Seigneur, qui avons commencé à le suivre sur le chemin et qui, à un moment donné, peut-être, nous nous sommes arrêtés. Est-ce que nous sommes toujours en mesure d'entendre cette voix du Seigneur ? Il t'appelle, lève-toi, prends courage. Le Seigneur n'a pas changé. Et nous voulons avoir la même promptitude que cet homme. Cet homme a jeté son manteau, il s'est levé d'un bond, il est venu vers Jésus. C'est pas demain, hein. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Si nous avons été touchés dans notre cœur, c'est aujourd'hui qu'il faut tout à nouveau nous reconsacrer au Seigneur et lui donner toute notre vie. C'en est assez de dire au Seigneur, mais c'en est assez se laisser aller. C'en est assez cette négligence dans ma vie. Mais Seigneur, maintenant, je me lève. Et d'un bond, il est venu vers Jésus. Il ne sait pas exactement où est Jésus, hein, mais il entend sa voix. Il est aveugle. On se le rappelle. Son problème n'est pas encore réglé. Il y avait un jeu qu'on faisait parfois en colo. C'est qu'on attachait, on bandait les yeux, plutôt, excusez-moi, non, on bandait les yeux d'un enfant pour qu'il ne voit point. Et puis, il y avait d'autres enfants dispersés dans une salle ou si c'était dehors, dans un pré. Et certains enfants devaient parler. Vous devez crier, et seulement au son de la voix des autres enfants, ils savaient plus ou moins s'il était à droite, s'il était à gauche ou un peu derrière, etc. Et l'enfant à tâtons, comme ça, devait marcher. Parfois, ça fonctionnait, parfois, il y avait des petits coquins qui, après avoir crié, bougeaient un petit peu hein, pour que celui qui avait les yeux bandés ne les trouve pas. Et je ne sais plus comment il s'appelle ce jeu, enfin bref. Mais pour dire que cet homme n'a plus la vue, il ne voit plus rien, mais il peut se guider par rapport au son de la voix de Jésus. Il sait que c'est plus ou moins par là, plus ou moins à droite, ou plus ou moins à gauche, ou derrière, devant. Il sait que c'est... Voilà, par rapport à ce son-là, il sait... Et il est venu vers Jésus. Il est venu vers Jésus. Lorsque... cet homme, Jésus s'est arrêté, donc il n'y a pas de problème, là Jésus ne bouge plus, appelez-le, il entend la voix du Seigneur, et ces gens qui disent « prends courage, lève-toi », il t'appelle. Donc là, probablement que Jésus n'était plus très loin, mais voilà, donc il a été certainement à tâtons, et là il se trouve devant Jésus. Vous savez, la parole de Dieu nous donne quand même une direction. La parole de Dieu nous donne une direction. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être il y a quelque chose qui nous a arrêtés dans notre marche chrétienne, quelque chose qui peut-être nous a aveuglés. On parlait la semaine dernière des influences, voire des séductions, qui vous a séduit, qui vous a enchanté, disait l'apôtre Paul aux Galates. Et il y a comme quelque chose qui nous empêche de bien discerner quelle est la volonté de Dieu, ce que Dieu attend pour nous, mais nous avons quand même la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle nous donne une direction. Et nous savons et nous pouvons nous diriger par rapport à cette parole. Peut-être que nous avons perdu de vue l'essentiel, peut-être que nous avons même perdu de vue le Seigneur Jésus alors qu'il est à notre proximité. Peut-être que nous n'arrivons plus à marcher sur le chemin que nous a tracé le Seigneur. Mais la parole de Dieu, elle est là. Elle est là et nous l'entendons retentir dans notre cœur. Que Dieu soit béni. Ce qui a arrêté cet homme, bien sûr, sur le chemin, c'était sa cécité. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, et on va s'y attarder un petit peu. Une fois que cet homme se trouve devant Jésus, Jésus va lui dire « Que veux-tu que je te fasse ?» Ça paraissait peut-être évident. Mais « Que veux-tu que je te fasse ?» Cet homme, la prière de cet homme, nous l'avons vu, c'est « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » C'est assez vague, n'est-ce pas ? Aie pitié de moi. C'est assez généraliste. On peut mettre beaucoup de choses dans ce « aie pitié de moi ». Quel était son problème ? Aie pitié de moi. Peut-être que cet homme, on aurait pu dire « aie pitié de moi, eh bien, on va te donner à manger, on va te donner de l'argent parce qu'il est en train de mendier. » Bon. Aie pitié de moi. Peut-être a-t-il besoin d'aide, que des personnes le guident sur le chemin, mais c'est trop vague. C'est trop vague. Comprenons bien cela. Et ce que veut, bien sûr que le Seigneur, il sait toutes choses. Il sait très bien un problème à ses yeux, mais Là, le Seigneur Jésus veut vraiment que cet homme lui dise, lui confesse ce que Jésus doit faire pour lui. Que veux-tu que je te fasse ? Et là, cet homme va lui dire que je recouvre la vue. Non pas qu'on me donne à manger, non pas qu'on me donne de l'argent, non pas qu'on me guide, qu'on m'aide à marcher, etc. Non, mais que je recouvre la vue. Car en fin de compte, le fond du problème, c'est cela. L'aider à manger, bon, ça va l'aider à un repas, ça va l'aider deux repas. Lui donner de l'argent, ça va l'aider non seulement pour manger, mais peut-être aussi pour s'habiller. Voilà, on peut s'imaginer tous les besoins que cet homme... Mais ça ne règle pas le problème de fond. En le guérissant de sa cécité, le Seigneur le solutionne en même temps tous ses problèmes. Parce qu'il va pouvoir aller travailler, il va pouvoir subvenir à ses besoins, il va pouvoir vivre normalement, et surtout, nous allons le voir, il va pouvoir reprendre son chemin, mais en suivant Jésus. Que je recouvre la vue. Pour cet homme, c'était ses yeux qui lui causaient problème. Quel est notre problème à nous ? Peut-être nous avons crié. Et je disais tout à l'heure ce verset qu'on trouve dans le psaume 34, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Peut-être nous avons crié notre détresse au Seigneur et nous avons dit « Seigneur, aie pitié de moi, prends miséricorde, viens à mon secours. » Et nous avons raison de dire « Viens à mon secours, Seigneur. » Alléluia, parce que nous ne sommes pas seuls. Nous savons qu'il étend ses mains d'en haut et nous retire des grandes eaux. Le Seigneur, il vient à notre secours. Mais en faisant cette prière, « Seigneur, viens à mon secours », c'est quand même un peu généraliste, j'allais dire. On peut mettre beaucoup de choses dans cela, n'est-ce pas ? Mais ce que le Seigneur attend de nous dans notre prière, c'est que nous puissions nous-mêmes mettre le doigt sur ce qui nous a arrêtés. Qu'est-ce qui t'a arrêté ? Que veux-tu que je te fasse ? Comment ça se fait ? Pour quelle vraie raison tu es assis au bord du chemin ? Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Si cet homme, à cause de ses yeux, n'arrive plus à voir le décor autour de lui, il y a une chose qu'il peut encore voir, c'est ce qui se passe à l'intérieur de son cœur. Les raisons, et ces raisons qui ont fait que nous nous sommes arrêtés pour chacun, peut-être ça va être différent des autres. Cette vraie raison, quelle est-elle ? Est-ce un péché ? Est-ce un complexe ? Est-ce une opposition ? Est-ce une raison intérieure ou physique au départ ? Est-ce un problème dans la famille ? Est-ce un problème dans l'Église ? Mais qu'est-ce qui t'a arrêté ? Disons-le au Seigneur, ce qui nous a arrêtés. Soyons vrais avec nous-mêmes. Soyons vrais avec nous-mêmes. Le Seigneur est celui qui, lorsque nous allons lui dire, ne va pas nous enfoncer. Mais au contraire, il va régler ce problème. Mais le Seigneur attend que nous puissions verbaliser par notre parole, en le faisant sortir de notre cœur, en lui disant ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes, afin que nous puissions lui exposer dans la prière et que nous puissions être débarrassés de ce problème, guéris de ce problème. Est-ce un problème de timidité, peut-être aussi, qui te coince, qui fait que tu n'arrives pas à avancer même dans ton lieu de travail, avec tes collègues? Tu n'es pas à l'aise, peut-être certains ne sont pas à l'aise en compagnie d'autres personnes, et à cause de cela, même leur service chrétien est impacté. Parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Mais quel est ton problème ? Que veux-tu que je te fasse ? Alléluia, le Seigneur est celui qui guérit les cœurs brisés. Non seulement il guérit les malades, et nous bénissons le Seigneur pour cela, mais il guérit les cœurs brisés. Que je recouvre la vue. Cet homme a exposé son problème à Jésus, et Jésus, eh bien, aussitôt, il nous est dit, eh bien, cet homme a recouvré la vue, que son nom soit béni. Mais en retrouvant l'usage de ses yeux, il n'est pas retourné au bord du chemin à s'asseoir, à sa place. Qu'est-ce que j'aime la fin de cette histoire ? il suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Au début, il est assis au bord du chemin. Mais après, il suit Jésus dans le chemin. Non seulement il a repris son chemin, mais en plus, il n'est pas seul sur ce chemin et il est en train de suivre Jésus. Et il va vivre des choses extraordinaires en suivant Jésus. Il va entendre ce que dit Jésus. Il va voir toutes ces personnes que Jésus va croiser. Il va entendre ses enseignements. Il va être avec les disciples de Jésus. Il va vivre des choses extraordinaires. Et lorsque l'on suit Jésus, on vit des choses extraordinaires. On voit la providence de Dieu. Lorsqu'on reprend ce chemin-là, lorsque tout à nouveau on redémarre et qu'on suit Jésus dans ses enseignements, dans son exemple, qu'on suit les traces de Jésus, qu'on a repris la direction que le Seigneur voulait pour notre vie, alors il se passe des choses. On est dans le plan de Dieu. Alléluia. On est dans le plan de Dieu. Et merci Seigneur pour ton plan. Merci Seigneur pour le plan de Dieu que tu as prévu pour chacun d'entre nous en particulier. Merci Seigneur pour le plan de Dieu qu'il a pour cette Église. Pour cette Église, que Dieu soit béni. Alléluia. Et Seigneur, il veut encore emmener plus loin cette Église. Il marche devant nous. Il nous entoure par devant et par derrière. Que son nom soit béni. Alors nous voulons redémarrer ensemble. À lui seul soit toute la gloire. Avec une vision nouvelle, comme cet homme a eu une vue nouvelle, une vision nouvelle. Il voyait tout à nouveau le décor. Personne ne pourrait l'empêcher de marcher, de suivre Jésus. Il voit Jésus devant lui et il suit Jésus. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen.